France Inter, 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 2 décembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quand les vacances au ski monopolisent le débat politique en annonçant des mesures restrictives et dissuasives pour les Français qui voudraient aller skier à l'étranger à Noël, le chef de l'État suscite l'incompréhension. On va le voir des deux côtés des Alpes. Les autres titres, Agnès.
Une pétition pour demander le report des premières épreuves du bac. Aux États-Unis, Joe Biden promet aux Américains que l'aide arrive et Donald Trump est lâché par son ministre de la Justice qui n'a constaté aucune fraude lors du scrutin présidentiel. Stéphanie Frappard entre dans l'histoire ce soir en devenant la première femme arbitre d'un match de Ligue des champions masculins. Et puis après, la pie qui chante, la pie ramasseuse de mégots, c'est une idée développée par une start-up marseillaise.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Oui, vous manquez de chaleur, de douceur, de musique en ce moment, alors ne ratez pas ce soir en direct sur France Inter le concert de la diva jazz Mélodie Gardot avec l'orchestre philharmonique de Radio France. Ça va être un sacré moment et ambiance dès ce matin avec la chanteuse américaine qui parle très bien français, Mélodie Gardot, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec le député La France Insoumise de la Somme, j'ai nommé François Ruffin. Il répondra à toutes vos questions. Le standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est une petite phrase d'Emmanuel Macron hier au cours d'une conférence de presse et voilà lancer une polémique avant tout symbolique. Moins de 10% des Français sont concernés. N'ayant pas réussi à convaincre les dirigeants des pays voisins, le chef de l'État entend donc empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Les stations françaises, italiennes et allemandes seront fermées pour les vacances de Noël, mais la Suisse ouvrira les siennes. L'Espagne, l'Andorre et l'Autriche pourraient faire de même. Paris y voit un risque sanitaire et une forme de concurrence déloyale. Mais une annonce, Philippe Lefebvre, qui sera bien difficile à mettre à exécution.
Côté français, c'est peu dire que la déclaration du président de la République a été accueillie avec scepticisme. Les professionnels de la montagne se demandent en effet quelles mesures va bien pouvoir prendre Emmanuel Macron. En effet, il paraît assez difficile, pour ne pas dire impossible, d'envisager de bloquer les skieurs français sur les routes, par exemple au niveau de la frontière franco-suisse, ou de les empêcher de se rendre dans les stations espagnoles ou de la principauté d'Andorre, car ces pays font partie de l'espace Schengen, qui garantit la libre circulation des personnes à l'intérieur des 26 pays de l'espace. Et côté Suisse, eh bien, c'est la perplexité. Simon Viguet est le directeur de l'Office du tourisme de Verbier et il doute qu'il ne s'agisse là que de mesures sanitaires.
C'est sûr que des restrictions de voyage ont un impact très négatif pour toute la branche, indépendamment du pays dans lequel on se trouve. Maintenant, si c'est des mesures de rétorsion, évidemment, c'est encore plus négatif, puisque je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des mesures supplémentaires par rapport aux problématiques Covid qui sont déjà très très impactantes pour notre branche.
Mais dans plusieurs stations françaises, on estime surtout qu'avec cette annonce, Emmanuel Macron tente de calmer la colère naissante des professionnels français qui organisent depuis plusieurs jours des manifestations dans les stations.
Et d'ailleurs, une nouvelle manifestation doit avoir lieu aujourd'hui. Explication signée Philippe Lefebvre. Emmanuel Macron a également annoncé le début d'une campagne de vaccination pour le grand public entre avril et juin prochain. Quant à la première phase, elle aura lieu dès que possible, après les homologations des autorités sanitaires européennes, entre fin décembre et début janvier. Dans les hôpitaux, le nombre de patients continue de baisser. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 3500 en réanimation, contre près de 5000 il y a 15 jours. Et l'Institut Pasteur vient de calculer le nombre de malades à prévoir dans 15 jours. Ces projections dépendent de plusieurs facteurs, mais en gros, Véronique Julia, entre 1600 et 2600 lits de réa devraient être occupés à la mi-décembre.
La fourchette donnée est assez large car il y a plusieurs incertitudes, donc plusieurs scénarios. Première incertitude, le nombre de reproductions effectives, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade peut contaminer. Il était inférieur à 1, compris entre 0,6 et 0,8 durant le confinement, avec l'allègement des mesures depuis le 28 novembre, le chiffre peut remonter dans les prochains jours, ce qui ferait augmenter le nombre de malades. Deuxième incertitude, ce qui se passe au sein même de l'hôpital. Au fil des semaines, la proportion de patients transférés d'un service classique en soins intensifs peut varier, de même que la durée moyenne des séjours en réanimation, car quand les services sont moins tendus, ils peuvent se permettre de garder par exemple un peu plus longtemps pour plus de confort certains malades. Simon Cauchemez dirige le service de modélisation mathématique des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur.
On présente des scénarios où cette durée peut varier entre 11 et 17 jours. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on arrive avec une fourchette du nombre de lits occupés par des patients Covid-19 le 15 décembre, donc entre 1600 et 2600 lits.
Le modèle prévoit 400 à 600 lits de soins critiques encore occupés par des patients Covid le 15 décembre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça reste élevé, mais c'est beaucoup moins que ce qui avait été atteint au pic de l'épidémie. Le confinement a été moins intense qu'au printemps. Pourtant, la décrue est très rapide, cette fois, constate le chercheur, en attendant les fêtes qui pourraient peut-être changer la donne.
Décrue aussi avec une baisse des cas de contamination, 8000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Conséquence du reconfinement décidé fin octobre, la moitié des lycées sont passés à un enseignement hybride avec jusqu'à la moitié des cours à la maison. Dans ces conditions, les élèves et les enseignants de terminale s'inquiètent de l'arrivée des premières épreuves du bac, mi-mars pour les spécialités. Une pétition en ligne qui a déjà recueilli 15 000 signatures demande le report de ces épreuves. Alexis Morel.
Depuis près d'un mois, Benjamin, élève de terminale, ne vient au lycée qu'une demi-journée sur deux. Le reste se fait à distance. Alors dans ce contexte, le bac dès mars, ça le stresse.
On a l'impression de prendre du retard sur les programmes parce qu'il y a une partie des cours qu'on doit travailler en autonomie avec des polycopiés qui nous sont envoyés par les professeurs. Et donc, on prend du retard sur le cours. Donc, c'est très compliqué de s'imaginer prêt pour ces épreuves.
Et c'est bien pour cela qu'il faut reporter ces épreuves de spécialité de mars à juin, selon certains syndicats enseignants. Et pour une fois, les proviseurs sont sur la même ligne. Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, le syndicat des chefs d'établissement, craint une rupture d'égalité entre élèves si un report n'est pas décidé, car seule une grosse moitié des lycées est passée à un fonctionnement hybride.
Ah ben oui, parce que forcément qu'à partir du moment où on a un établissement qui maintient les cours à temps complet, un autre qui bascule à mi-temps. L'élève qui a 6 heures de présence dans l'établissement et l'élève qui a 3 heures de présence et 3 heures à distance d'une quelconque façon, c'est quand même pas la même façon d'avancer le programme.
Pour l'instant, Jean-Michel Blanquer n'évoque pas de report, mais un aménagement des épreuves avec par exemple deux sujets proposés au lieu d'un dans chaque discipline.
Ouvrir l'adoption aux couples non mariés, abaisser l'âge minimal requis pour les parents et aussi faciliter l'adoption des enfants délaissés. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi La République en marche. La majorité vante un texte de progrès et d'actualisation de l'adoption soutenue par le gouvernement. La droite et certaines associations dénoncent un texte fait de bons sentiments mais mal ficelé. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h07, Agnès, l'épidémie de Covid aux États-Unis.
Avec plus de 2500 morts en 24 heures, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis le mois d'avril, et un bilan global qui dépasse les 270 000 morts. Une crise sanitaire doublée d'une crise économique. La future secrétaire au Trésor, Janet Yellen, parle de tragédie américaine. Joe Biden, qui dans une allocution hier depuis son fief du Delaware, a demandé aux Américains de tenir bon.
Our message to everybody struggling right now is this.
Notre message à tous ceux qui se battent est très clair. L'aide est en route. L'aide est en route donc pour les Américains particulièrement touchés par la crise. Sur le plan politique, Donald Trump enregistre lui un nouveau revers de taille, désormais lâché par son ministre de la Justice. Bill Barr affirme que son ministère n'a constaté aucune fraude lors du scrutin présidentiel. Sébastien Paour est à New York pour France Inter.
Bill Barr donne son point de vue sur l'élection dans un entretien à l'agence de presse AP et il dit ceci: nous n'avons pas constaté de fraude à une échelle qui aurait pu changer le résultat de l'élection. Et celui qui était jusqu'ici un soutien fidèle du président américain explique que le FBI et le ministère de la Justice ont enquêté, notamment sur des machines qui auraient changé le décompte des votes, le fameux logiciel de l'entreprise Dominion utilisé par la moitié des électeurs américains et montré du doigt par Trump depuis 3 semaines. Le procureur général est clair, nous n'avons rien vu qui puisse le prouver. Une manière de répondre peut-être aux insinuations de son patron il y a quelques jours, suggérant que son ministère et le FBI puissent être impliqués dans la fraude. Le seul, en tout cas, à avoir pris position comme ça publiquement à ce niveau de responsabilité pour dire que l'élection s'était déroulée sans fraude et donc pour contredire les accusations du président américain, c'était le patron de l'agence chargée de la sécurité et de la cybersécurité du scrutin, Chris Krebs. Il a été viré d'un tweet par Trump il y a 2 semaines. On voit mal comment Bill Barr pourrait ne pas connaître le même sort. New York, Sébastien Paour, France Inter.
Une visioconférence internationale de soutien au Liban aujourd'hui, une initiative de la France et de l'ONU 4 mois après l'explosion dans le port de Beyrouth, alors que le pays est toujours plongé dans une double crise politique et économique. Reportage à Beyrouth dans notre prochain journal. Une victoire pour l'honneur pour les Marseillais en Ligue des Champions, 2-1 face à l'Olympiakos hier soir. L'OM ne jouera pas les 8e de finale, mais a mis fin à une série de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Suite de la 5e journée ce soir, le PSG affronte Manchester United à Old Trafford. Et puis, c'est ce soir que Stéphanie Frappa va devenir la première femme à arbitrer un match de Ligue des Champions des hommes. La Française a été désignée par l'UEFA pour arbitrer le match entre la Juventus de Turin et le Dynamo Kiev. À 36 ans, Stéphanie Frappa est devenue un modèle et suscite pas mal de vocations. Alexandre Vaux.
Héloïse Pivot est la seule arbitre du Rouennais dans le nord de la Loire. À 16 ans seulement, elle dirige déjà des matchs de niveau régional et voit naître un effet Stéphanie Frappard.
J'ai beaucoup d'amis filles qui me disent comment on fait pour devenir arbitre. Je leur explique un peu comment ça se passe. Je vais essayer de gravir les échelons.
Comme Maïka van der Stichel, 26 ans. Maïka officie en D1 féminine et fait partie des 4 arbitres qui ont intégré cette année le dispositif de professionnalisation des arbitres féminins.
C'est important, oui, de pouvoir montrer qu'une femme peut arriver à ce niveau-là et y arriver que par ses compétences.
Un défi avec un grand D. À 32 ans, Justine Catania, presque 10 ans de carrière, mesure la performance de Stéphanie Frappard, qui est chargée de l'encadrer, elle et les meilleures féminines.
Nous, on la voit en stage. Je pense que déjà, elle a des capacités athlétiques hors normes. Et en plus de ça, elle travaille dur.
Et il y aura du monde devant la télé, confirme Maïka van der Stichel.
On tient tous à être présents pour voir ce match et la soutenir.
Le regard plus porté sur l'arbitre que sur les joueurs.
Et puis l'équipe de France féminine n'a fait qu'une bouchée du Kazakhstan hier soir pour son dernier match de qualification en vue de l'Euro 2022. 12-0. Une super victoire pour le jeu. Les Bleus étaient déjà qualifiés.
Opération mégot contre nourriture.
C'est l'idée développée par une start-up marseillaise. Le concept, inciter les pies, corbeaux, corneilles et autres pigeons à ramasser les mégots et autres petits déchets plastiques pour les déposer dans un distributeur de gourmandises. Explication signée Olivier Martoc.
Jules Mollaret, le cofondateur de Bird of Change, a commencé par étudier toutes les expériences menées sur des oiseaux partout dans le monde avant de concevoir sa machine.
Ça fonctionne comme une poubelle. L'oiseau arrive, dépose un déchet à l'intérieur et à chaque fois que cette machine analyse le déchet, grâce à l'intelligence artificielle et donc une caméra. Et si le déchet est reconnu, alors la machine délivre une récompense aux oiseaux, à savoir de la nourriture. Et après, par système de mimétisme, les autres oiseaux aux alentours se mettent à faire ce geste-là.
Exposer simplement ce projet peut sembler loufoque. Or, un prototype est actuellement testé par des scientifiques à Strasbourg. Valérie Dufour, chercheuse au CNRS, est spécialiste du comportement des corvidés.
Si on travaille avec des corbeaux freux, par exemple, c'est une espèce sociale. Ils vont être tous les uns près des autres, donc le fait d'en voir un récupérer la nourriture, ça va en attirer quelques-uns, qui vont du coup regarder, qui vont voir que, ah tiens, manipuler les petits déchets, ça sert à quelque chose, ça peut être utile. Donc ils vont être influencés par les autres.
Dans 4 mois, fin de la phase expérimentale et déploiement des premiers prototypes dans les villes, où les corbeaux et autres corneilles ne vont peut-être plus être considérés comme des nuisibles. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Voilà, les corbeaux sont nos amis, Nicolas.
Merci Agnès Soubiran.